Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur Micro Rebelle dans la rubrique L'actualité vue par les jeunes. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jonathan, Salomé, Sarah et moi-même Aurélie afin de parler et débattre sur un sujet qui fâche, sur lequel beaucoup ne sont pas d'accord, le féminisme. Nous nous retrouvons après une courte pause musicale. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du féminisme. L'égalité des sexes profite à tous, a déclaré le Premier ministre islandais lors de la conférence E4She le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits des femmes, et non la Journée de la femme, comme beaucoup l'appellent. Nous allons commencer par une courte définition. Le féminisme, est-ce que ça vous parle? Spontanément, pour vous, c'est quoi?
Alors pour moi, le féminisme, c'est le fait que des gens se battent pour que les femmes possèdent les mêmes droits que les hommes.
Ok, d'accord. Et toi, Sarah?
C'est à peu près pareil, ouais. C'est les femmes qui veulent devenir les égaux des hommes et qui, du coup, en fait, font valoir des droits qu'elles n'avaient pas au départ et se battent pour cette égalité.
Ok, d'accord. Et toi, Jonathan? T'es un peu seul gars ici, donc qu'est-ce que t'en penses?
Alors, je pense pareil que vous. Cependant, j'ai fait quelques recherches parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Alors, j'ai trouvé une définition du féminisme. Alors, le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun. Qui partagent un but commun, définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme a donc pour objectif, d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes dont les femmes sont les principales victimes et ainsi de promouvoir les droits de femmes dans la société civile et dans la vie privée. Voilà.
D'accord, c'est très bien alors. Donc on va continuer sur une autre question qui te vise d'abord toi, Jonathan, puisque comme je l'ai dit précédemment, t'es le seul homme ici. Donc un homme féministe, c'est la réalité ou c'est improbable pour toi? Enfin, est-ce que tu es féministe d'abord? On va commencer par ça.
Alors attends, c'est bien pour contredire les inégalités hommes-femmes, c'est bien ça?
Oui, pour l'égalité homme-femme, on va dire, oui, c'est ça en fait.
Voilà, ouais. Donc moi, je suis pour, parce que bon, une femme reste un être humain comme tout le monde, donc... Je vois pas pourquoi les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Alors, un homme féministe, réalité ou pas? Bon, c'est une réalité parce que moi je le suis.
D'accord, et vous les filles?
Non, moi je pense que c'est pas du tout utopique. Je pense qu'il y a même des hommes qui sont beaucoup plus pour l'égalité homme-femme que certaines femmes. Donc du coup, là tout de suite, il y en a pas un qui me vient à l'esprit, mais je connais par exemple des amis, etc., qui sont pour ça, qui se battent pas forcément comme des féministes, etc., mais qui sont pour cette égalité, donc je pense pas que ce soit utopique.
D'accord. C'est des grands acteurs américains qui sont pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et oui, pour moi c'est totalement probable, parce que féminisme, ça peut être touchant autant que les hommes que les femmes.
Parce qu'en fait, en ce moment, on entend beaucoup parler du terme féministe, que y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un terme qui est réservé aux femmes. Et du coup, beaucoup utilisent le terme égalitaire, en fait. Ils se décrivent comme des personnes qui veulent l'égalité. Bon, est-ce que pour vous, ce thème, c'est assez... Enfin, ce terme, c'est sexiste de dire féministe et pas de dire d'égalité pour tous? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? On devrait changer le terme ou bien le laisser comme il est?
Non, je pense pas. Je pense que c'est un terme, il a été créé pour ça et je vois pas pourquoi on devrait le changer. En fait, c'est juste que dans la vision, on va dire la vision populaire de ce mot, ça représente les femmes, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça représente juste l'égalité. Donc du coup, justement, c'est pour ça. Il faut pas que ce soit un mot juste pour les femmes, il faut que ce soit un mot pour tous les êtres humains.
Je vois. Et toi, Salomé? Non, Jonathan? Un avis?
J'ai vu... alors, c'est pourquoi... La question, c'est bien pourquoi il y a le mot féminisme uniquement pour les femmes et non pour les hommes. Oui. J'ai vu sur internet toujours qu'il y a aussi l'homonisme, qui est à peu près la même chose que le féminisme.
Je vois. Tu peux développer un peu plus ton propos parce que je connais pas du tout, donc je peux pas vraiment.
C'est à peu près exactement pour les femmes, c'est que je sais pas trop parce que j'ai simplement lu comme ça, j'ai oublié, mais il y a aussi l'homonisme qui parlait. J'ai jamais entendu parler auparavant par sur internet, mais il y a l'homonisme qui existe.
Ouais, c'est intéressant, bah, je me renseignerai alors. Donc, un autre sujet d'actualité. Aujourd'hui, on a l'impression que la cause féministe, enfin, j'ai l'impression, et beaucoup de personnes d'ailleurs, que la cause féministe est de plus en plus critiquée. Selon vous, pourquoi? Est-ce que c'est légitime? Donc, un avis?
Je pense qu'après, il y a des femmes qui sont l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'elles prônent le fait que les femmes soient au-dessus des hommes. Et je pense que les gens voient dans les personnes féministes ce type d'exemple.
Ouais, c'est ce que je pensais aussi. T'as un autre avis?
Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, c'est... Les gens voient cette partie féministe du monde d'un mauvais œil parce qu'en fait, il y en a qui en font beaucoup trop et qui, du coup, en fait, sont plus du tout pour l'égalité et sont pour la supériorité des femmes. Alors qu'en fait, le féminisme, de base, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les femmes, la femme égale à l'homme, c'est pas la femme supérieure à l'homme. Et donc, je pense que c'est pour ça que, on va dire, le monde a une vision plutôt négative des mouvements féministes et des gens qui se disent féministes.
Surtout qu'en effet, on peut remarquer que beaucoup de personnes définissent le féminisme, par exemple, juste par les femmes. Ben, les femmes, c'est ce qu'on appelle, en fait, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est ces personnes, un peu comme en France, par exemple, dans la politique, on a la droite, on a l'extrême droite, ou la gauche et l'extrême gauche. Ben, les féministes, c'est un peu, en gros, le féministe, en gros, c'est un gros tout. Et les femmes, c'est vraiment ces personnes qui sont à l'extrême. Bon, parfois, ils font des missions, par exemple, dans les pays un peu plus touchés en Afrique, où souvent, on peut les voir, y a des photos qui circulent un peu sur le net, sur Facebook, Twitter, où on les voit à moitié nus. Enfin, souvent, le ONU, avec des slogans écrits dessus. Et c'est pour moi, enfin, je trouve personnellement que c'est une cause qui est juste, dans le sens où, avec ces pays-là, c'est un peu difficile, en fait, d'instaurer une idée féministe. Mais parfois, certaines vont peut-être trop dans l'excès, comme le disait Salomé. Enfin, je veux dire, parfois, ils voient du sexisme là où il n'y a pas vraiment à en avoir. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, le sexisme, il y en a partout. On appelle ça, d'ailleurs, le sexisme ordinaire. Donc, par exemple, toi, Jonathan, est-ce que tu penses que... Enfin, pour toi, les féministes, t'as quelle image des féministes, au juste? On va commencer par ça. Quelle image, pour toi, le féminisme renvoie? Quand tu dis féministe, tu penses à quel type de personne?
Bah, aux femmes, directement, non. Je sais pas trop la question, en fait.
Bah, en fait, ce que je veux dire par là, c'est... On a souvent, enfin, on a tous une idée des féministes. Par exemple, j'ai des amis qui pensent que les féministes, c'est des grosses rageuses. Elles arrivent et là, elles sont en mode, je vais tout défoncer. Et toi, ben, quand tu dis féministe, tu penses à des personnes normales, enfin, dans
bah ouais,
des
personnes normales, ouais, qui veulent se battre pour les droits, pour avoir les mêmes droits, tout simplement.
Parce que ouais, en effet, aujourd'hui, on voit plus en plus de gens qui se disent pas féministes en fait. Enfin, ils sont pour l'égalité des hommes et les femmes, mais pour eux, le terme féministe, c'est un peu péjoratif. Donc voilà. Donc d'ailleurs, on parle souvent de la place qu'occupe la femme dans la société. Il faut dire qu'au début de la civilisation, en fait, notamment en Grèce, la femme avait pour unique mission d'éduquer, de nourrir ses enfants et de subvenir aux besoins de son mari. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au 21e siècle? Est-ce que ces stéréotypes sont toujours d'actualité?
Non, en fait, c'est très mitigé, je trouve, parce que il y a certaines... En fait, c'est très mitigé par rapport à l'éducation des gens, je pense. Il y a des personnes qui sont plus du tout dans cette idée-là et qui disent, bah non, pas du tout, l'homme peut très bien faire la vaisselle et éduquer les enfants et la femme partir au travail. Alors que dans certaines régions ou dans certaines petites villes, par exemple, qui sont un peu coupé du monde, c'est le contraire, c'est la femme reste à la maison, etc. Et l'homme va un peu gagner l'argent dont la famille a besoin. Du coup, c'est des stéréotypes qui restent ancrés dans certaines parties du monde, ou même dans certaines parties de la France, dans certaines petites villes, mais qui, d'une façon, enfin, je pense, d'une manière générale, se sont bien effacés de la société.
Ouais, d'accord.
Je suis d'accord, c'est, ça dépend des régions du monde, la culture est différente partout.
Alors, je reviens à ce que tu as dit, Aurélie, à propos de la Grèce, au début de la civilisation. Il faut savoir que, au moment de la Renaissance, tous les pays, dans certains pays plutôt, les femmes étaient égales à l'homme, donc elles pouvaient avoir son propre salaire. Je parle notamment aux États-Unis, qui ont eu le droit au même salaire en 1966, et qu'ils ont aboli tout ce qui est discriminatoire entre hommes et femmes en 1964. En Italie et en Égypte, par contre, la femme, pareil, c'était égaux à l'homme, que ce soit culture, au niveau culture. Cependant, en Égypte, pendant plusieurs années, la femme, elle commence à être moins mise en valeur. On va dire plutôt qu'elle elle a moins de pouvoir qu'avant, juste pour savoir. Et pour répondre à ta question, pour les stéréotypes, c'est la même chose d'aujourd'hui. Bah, comme Salomé et Sarah l'ont dit, tout dépend le pays.
Après, moi, je pense personnellement que, par exemple, tu parlais des États-Unis, Jonathan. Aux États-Unis, en fait, il y a une lutte forte, en fait, une forte lutte, du coup, pour le droit de vote des femmes. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très mouvementé. Enfin, faut dire que quand le droit de vote a été instauré, en fait, c'était vraiment un peu calculé, en fait. C'était manigancé parce qu'on pensait que les femmes, en politique, bah, elles savaient rien faire et qu'elles allaient voter pour n'importe quoi, n'importe qui. Et du coup, avant, il faut savoir que juste quand on a instauré le droit de vote aux États-Unis pour les femmes, c'était quelque peu compliqué parce qu'il fallait quand même avoir, il me semble que c'était, il fallait avoir 30 ans et être mariée.
Oui.
Moi, je trouve que c'est pas vraiment un principe d'égalité que, enfin, je trouve que les États-Unis, c'est pas aujourd'hui, pour moi, les États-Unis aujourd'hui, c'est pas vraiment le symbole type de la tolérance. Enfin, on peut en voir, on a beaucoup de, même au niveau raciste, racial et tout. Enfin, c'est vraiment compliqué aux États-Unis. Je pense que c'est un peu tous les pays pareils. Après, je pense qu'il y a beaucoup une influence aussi de la religion. Enfin, moi, c'est mon avis. Je trouve que les religions, ça influence beaucoup sur certains.
L'égalité.
Sur l'égalité. Je trouve que c'est un sujet assez sensible.
Oui.
Donc, on va reprendre sur un sujet qui suit, d'ailleurs. Donc, quel est le pire stéréotype que vous avez entendu sur les filles ?
C'est très large. C'est très, très large, parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a tellement,
ouais. Ouais. Le pire... je sais pas trop. Je pense que, en fait, c'est pas, enfin, le stéréotype du fait la vaisselle. Enfin, tu sais un peu la femme fait la vaisselle, la femme fait le ménage et l'homme part et tout et l'homme a sa vie alors que la femme reste beaucoup à la maison. Je pense que c'est ça le. Pour moi, c'est ça le plus gros stéréotype. C'est la femme à la maison, l'homme en dehors.
Ouais, j'allais dire la même chose. C'est la femme sait faire que le ménage et puis elle peut pas réfléchir elle-même sur le monde qui l'entoure et puis elle est faite qu'à élever les enfants et faire la cuisine et faire le ménage.
Bah, je pense pareil, donc...
Bah, moi, je pense que... Enfin, moi, je dirais le plus gros stéréotype que j'ai entendu, c'est un peu le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Je me souviens quand j'avais été acheter un MP3 et j'ai demandé pour l'avoir en bleu et on m'a dit comme ça « Ah non, mais t'es sûr que tu veux pas rose parce que bah, t'es une fille, hein ?» Enfin, je trouve ça un peu choquant au XXIe siècle de dire ça. Bon, après, voilà, c'est sûr que je vous rejoins tous sur le fait que la femme fait le ménage, fait la cuisine, et l'homme, il est dans son canapé un peu tranquille. Donc, je pense que c'est le plus gros stéréotype, en effet.
Oui,
et
puis il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le rose était attribué aux jeunes chevaliers, et puis le bleu aux femmes par rapport à la Vierge Marie. Donc, ça a totalement changé.
Ah, c'est vrai que maintenant, on attribue beaucoup le rose aux filles, alors que bon, c'est pas vraiment ça avant. Mais bon, après, je pense que c'est aussi l'influence de la société de consommation, en fait. Quand on regarde, il y avait une étude qui a été faite. Enfin, je l'ai vue en seconde quand j'étais en littérature et société. On avait vu des photos où, en gros, c'était un photographe qui avait, je ne connais plus le nom malheureusement, qui avait fait le tour du monde et qui avait pris en photo les chambres des enfants, en fait, des petites filles et des petits garçons en particulier. Et en fait, on pouvait voir que il y avait beaucoup d'affaires roses chez les filles et beaucoup d'affaires bleues chez les garçons. Mais ça, c'était partout dans le monde. Et c'était vraiment impressionnant de voir à quel point c'était, on était fort influencés par la société de consommation.
Mais je pense aussi que, par exemple, là, je me souviens parfaitement de ces photos, etc., avec cette couleur dominante, rose pour les filles, bleu pour les garçons, et certaines couleurs qui parsemaient un peu le tout. Mais je pense aussi que ça, en fait... Le problème, c'est, je reviens au point de l'éducation, parce que, en fait, je pense que cette égalité, elle se fait par l'éducation et elle se fait par nos parents. quand t'es un enfant de 3 ans ou un enfant de 5 ans, en fait, la fille va réclamer des Barbie, le garçon des Action Man, mais la couleur de ta chambre, la couleur de tes draps, etc., quand t'es tout petit, vraiment tout petit, c'est tes parents qui le font. Par exemple, quand on voit des parents dans les magasins, etc., qui ont un nourrisson, vraiment nourrisson, qui a à peine l'âge de parler, et qui disent « Bah, c'est une fille, on va lui prendre un truc rose. » Bah non, c'est une fille, tu pourrais lui prendre un truc bleu, un truc rouge, un truc jaune, un truc, même un truc noir, enfin... C'est... Je pense aussi que ça passe par les parents. Ce genre de stéréotypes, je pense aussi que ça passe par les parents.
Surtout que maintenant, quand on regarde, y a beaucoup de couleurs intermédiaires. Par exemple, pour les nourrissons, le jaune, c'est très bien qu'on ne connaît pas le sexe de l'enfant. Après, je pense que c'est beaucoup... Enfin, c'est une lutte, vraiment... Enfin, c'est vraiment une idée sur laquelle les féministes se battent, en fait, et luttent contre. Parce que bah, c'est que des couleurs, en fait, finalement, et ça ne dit pas vraiment grand-chose de notre personnalité. Donc, y a aussi un autre stéréotype, enfin... Plutôt, j'aimerais savoir si c'est une insulte ou une réalité. Particulièrement, je pose cette question-là à Jonathan, puisque bon, bah, il m'avait fait la remarque lors de la préparation du sujet. Donc, tu frappes comme une fille. Est-ce que c'est une insulte ou une réalité ?
Bah, pour moi, je dirais que c'est une insulte parce que scientifiquement parlant, une femme, morphologiquement parlant, elle est plus faible qu'un homme. Donc, quand on dit que tu frappes comme une fille, ça veut dire qu'il n'y a pas de force. Pour moi, c'est ça.
Après, je pense aussi que c'est du fait qu'en fait, beaucoup de scientifiques sont basés sur le fait que les femmes, il me semble qu'elles ont besoin de manger moins parce que par rapport aux hommes, parce que les hommes, ils dépensent plus d'énergie que les femmes. Alors du coup, ça, c'est vraiment le stéréotype des machos, quoi. Enfin, l'argument des machos.
Ouais, en fait, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est, en fait, nous, on garde beaucoup plus d'énergie parce que c'est le côté maternité, etc., alors que les hommes ont tendance à beaucoup plus en dépenser, mais je pense aussi, comme Jonathan, que c'est une insulte, mais c'est pas une insulte par rapport aux hommes. En fait, pour moi, c'est pas une insulte par rapport aux hommes. Je parle en tant que femme, hein, bien sûr. C'est une insulte quand on dit tu frappes comme une fille. Non, je suis désolée, moi, ma petite sœur, elle frappe, mais on dirait un boxeur, quoi. En fait, je trouve ça n'importe quoi de dire tu frappes comme une fille, ou même tu frappes comme un homme, mais n'importe quoi. Tu frappes, point final, et tu frappes avec la force que t'as, et pas par rapport au sexe de l'opposition, ou au sexe que toi tu as.
Ah bah on peut avoir une fille très athlétique, très boxeuse.
Exactement.
Et puis un garçon qui fait rien. Et puis finalement, la fille, elle va
le mettre à terre en dodo.
Exactement.
Voilà, exactement. Puis ça fait me penser, petit big up à Mélissa, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui fait des sports de combat. Elle a fait du judo, du self-défense et du taïso. Et je pense qu'elle est l'exemple parfait de la fille qui se bat pour ce qu'elle veut.
Exactement.
Et d'ailleurs, dans les sports, on peut voir aux Jeux Olympiques, c'est de plus en plus... Enfin, être une femme, vraiment, c'est un sujet tabou. Parce que quand on regarde, je me souviens plus trop, je l'ai vu sur un article sur Internet. C'était une Chinoise, une jeune femme, qui expliquait que... elle pouvait pas, enfin, elle avait mal au ventre parce qu'elle avait ses règles et elle était dans la natation en fait. Et c'était vraiment un sujet, ça avait répugné totalement les médias. Et on peut voir encore que c'est un sujet très tabou dans la société. Être une femme avec ce qui va avec, ça devient de plus en plus compliqué pour certains. Et donc, voilà. Donc, des réflexions, enfin, des avis.
Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, être une femme, avoir ses règles, etc. En général, par exemple, quand moi je prends dans mes proches, etc., ou même rien qu'au collège ou au lycée, quand tu regardes un gars et qu'il te demande pourquoi ça va pas et que tu lui dis j'ai mal à mon ventre à cause de mes règles, en fait, il a tendance à te regarder en mode mais t'es vraiment fragile, ça fait pas mal, etc.
Oui, alors qu'il en a jamais eu.
Alors qu'en fait, il en a jamais eu, c'est pas du tout ce que ça fait. Il y a des fois où j'ai mal, genre du début de. Genre juste en dessous de la poitrine jusqu'au début du genou, et en fait, ça, ils se rendent pas compte. Et du coup, je pense que. Alors, j'ai vu une vidéo une fois sur. Je crois que c'était sur Facebook, où en fait, c'était des femmes qui, avec leurs copains, du coup, je pense, parce qu'elles étaient très jeunes, avaient fait une expérience. En fait, l'homme, on lui avait placé des électrons sur l'abdomen, oui. etc. Et en fait, du coup, les électrons simulaient un accouchement, etc. Et du coup, tout le travail qui va avec. Et en fait, en sortant de cette expérience, ils les ont gardés en mode « Mais tu es forte, chérie, tu es forte !» Et j'ai trouvé ça extraordinaire de montrer aux hommes que, si on se plaint et si on a mal à ce point-là, c'est que vraiment ça fait mal et qu'on n'est pas en chochotte en mode « Je suis une pauvre petite fille fragile qui a besoin qu'on s'occupe d'elle ». Je trouve ça ridicule en fait.
Bah c'est sûr, je te rejoins sur ce point-là. Je pense vraiment que ils peuvent pas vraiment savoir. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure à propos de l'avortement justement. Mais je pense qu'après, ils réalisent pas vraiment ce que c'est, enfin ce que ça représente. Par exemple, Jonathan, toi, t'en penses quoi? Enfin, c'est quoi ta position face à ça en fait?
Je sais pas, j'ai pas de règles. J'évite la question. Voilà. J'ai pas de règles, je peux pas savoir. Bon, je peux pas imaginer assez de douleur alors que je peux pas l'avoir, quoi. Donc, je peux pas savoir que si je peux mieux gérer, par exemple, si j'avais des règles, je peut mieux gérer qu'une femme, donc je peux pas savoir ça par contre.
Ah, et puis surtout que j'entends beaucoup le truc, c'est que dès que j'ai mal au ventre ou quoi, ou que je me sens pas bien, ou que je suis un peu irritable, on me fait « Ah mais toi t'as tes règles, hein !»
Ça, c'est sûr, ça.
C'est affreux, parce que justement ils comprennent pas vraiment la douleur, donc ils sont là à juger en mode « Ah mais toi t'as tes règles, hein !» Non mais c'est vraiment, je trouve que ça se fait pas du tout. Donc voilà, donc on va se retrouver après une courte pause musicale. Le titre c'est « In Love » de A. Imitsu. J'ai réussi à le dire, big up à moi. Donc voilà, on se retrouve après. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. On se retrouve, on est de retour. Donc les droits des femmes aujourd'hui sont de plus en plus remis en question, notamment ce sujet de l'avortement. Certains candidats durant les primaires, notamment François Fillon, ont exprimé leur réticence face à l'IVG. Donc que pensez-vous de l'avortement ? Est-ce que c'est quelque chose pour, contre, certaines circonstances ?
Moi je suis... en même temps je suis pour, en même temps je suis contre parce que... parce que si une fille se fait violer ou a un enfant sans forcément
sans le vouloir.
Ouais, sans le vouloir. Ouais, je suis pour, mais après je suis contre, genre que c'est des femmes qui ne réfléchissent pas, qui agissent. Tout dépend du contexte en fait.
Ouais, je vois. Et toi, Jonathan ?
Bah, j'ai pensé pareil. Par exemple, si une femme se fait violer ou autre, c'est bien normal d'avorter l'enfant parce que c'est un enfant qui va vivre sans père plutôt. Par contre, comme Salomé dit, si c'était un accident parce qu'ils ne sont pas protégés ou autre, c'est tout à fait normal qu'ils gardent comme l'enfant. Ils n'avaient qu'à prendre plus de précautions.
Non, moi je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense qu'on a tous le droit à l'erreur et si par exemple on le fait une fois sans se protéger et que.
Oui, une fois oui, mais quand
mais non,
ça
mais
arrive.
Sur la... Quand ça arrive plusieurs fois, je suis bien d'accord qu'au bout d'un moment, en fait, tu gardes le bébé quoi. Mais je suis pour l'avortement dans presque tous les cas, à part si franchement tu provoques le truc quoi. Mais comme vous dites, pour les femmes qui se font violer, pour les femmes à qui il arrive des emmerdes, etc., et qui tombent enceintes. C'est normal qu'elles ne veuillent pas garder le bébé, quoi. Et c'est normal qu'elles aient le droit de pas garder le bébé. On va pas les forcer à garder quelque chose. Même si à la fin, elles vont forcément l'aimer. Non, mais je veux dire, c'est quand je dis quelque chose, c'est quelqu'un, parce que c'est quand même un être humain, même s'il est pas encore né et tout. Mais on va pas les forcer à garder cet être humain. Alors qu'en fait, au départ, ça va pas, enfin, elles vont pas être heureuses avec ça et elles vont juste se sentir mal parce que forcément ça va refléter une réalité qui s'est passée avant, etc. Même si au bout d'un moment elles vont l'aimer parce que ce sera quand même leur enfant, il y aura toujours ce côté un peu négatif derrière. Mais par contre, pour les accidents, etc., non, moi je suis pour l'avortement dans presque tous les cas.
Ouais, je vois. Bah, moi aussi, personnellement, je suis pour l'avortement, mais à 100%. Je pense qu'au XXIe siècle, c'est vraiment un droit fondamental. Bon, après, les anti-VG jouent aussi sur le fait du droit. Mais je pense vraiment que c'est fondamental. D'ailleurs, il y a un film poignant qui s'appelle Nos, qui a été réalisé par Stéphane Strecker. Je l'ai personnellement vu lors du festival d'Arras, qui se déroulait en novembre dernier. Donc, ce film, c'est un parfait exemple de révolte, en fait, contre ça, puisque c'est un peu une critique de la vision que les gens ont de l'avortement. Enfin, c'est une jeune pakistanaise en fait qui s'appelle Lina et qui en fait elle se retrouve enceinte d'un homme que ses parents n'ont pas choisi, puisqu'en fait au Pakistan il y a toujours cette tradition de que les parents choisissent le mari de leur fille. Et ce film en fait il montre que l'avortement en fait. Parce qu'il y a une forte critique, puisque c'est dit dedans que l'avortement, ok, ça coûte 3,50€, mais que c'est pas comme si t'allais acheter un petit pain, c'est pas comme si t'allais à la boulangerie commander quelque chose, ou bien pas comme si t'allais acheter des nouveaux vêtements. C'est pas du tout marrant, et c'est un sujet vraiment sérieux. Donc après, je comprends que oui, il y a des femmes qui... on a souvent le stéréotype de la femme qui fait pas attention, qui prend pas sa pilule, ou qui a pas moyen de contraception, et qui va, se ravorter comme ça. Mais après, je pense que... Je pense vraiment que c'est un stéréotype aujourd'hui, parce que le nombre de pros, enfin, on a quand même des protections maintenant, on a les contraceptifs qui sont vraiment au point quand même, on a le préservatif, c'est quelque chose qu'on trouve partout en fait, en pharmacie, à Leclerc, Carrefour, à Lidl même. Donc je pense que c'est très développé.
C'est pas cher.
Après, comment ?
C'est pas cher.
C'est pas cher, ça j'en sais rien, mais bon. Après, je pense que aujourd'hui dans le monde, l'avortement, c'est vraiment un gros tabou. Notamment, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de femmes qui n'y ont pas accès. Par exemple, je sais qu'en Amérique du Nord, il me semble, mes souvenirs sont bons. Là, avec Donald Trump, il n'est pas trop d'accord pour l'avortement. Donc, c'est en train de se faire. Mais il faut savoir que dans certains États, puisqu'en fait, rappelons-le, en Amérique, c'est des États fédéraux qui ne... Comment dire, qu'ils ont leur propre, je dirais pas propre loi, mais qu'ils ont un propre politique. Et là-bas, l'avortement, c'est punissable d'amende ou d'autres choses, de prison même, il me paraît. Et dans un autre endroit du monde, en Afrique subsaharienne notamment, ça reste vraiment tabou et passible de prison et de peine de mort. En France, le droit à l'avortement a été établi en 1975 par la politicienne et philosophe Simone Veil. Je sais pas comment on dit. Veil. Donc on va rester dans le domaine médical et je vais poser une question que... c'est une information que tout le monde ne connaît pas en fait. Par exemple, c'est l'idée, est-ce que vous connaissez ce que c'est le point du mari ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ? Ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent ici ? Non ? Jonathan, t'as pas une idée ?
Si,
je t'ai dit la réponse tout à l'heure, mais...
Du coup, un petit peu, mais
bon. Du coup, je vais expliquer un petit peu. En fait, le point du mari, c'est vraiment quelque chose que peu de personnes connaissent, parce que ça n'a pas été très très développé dans les médias. Enfin, pendant un temps, ça l'a été. C'est en fait, par exemple, une femme qui accouche, si elle a besoin de points de suture au niveau du vagin, il y a certains gynécologues et certains médecins, en fait, qui se permettent de recoudre 2, 3 ou 4 points de suture au-dessus de la norme pour, en fait, rendre le vagin de vierge à la femme. Et c'est pour augmenter le plaisir de l'homme. Et bah justement, la femme, ça la fait souffrir, en fait. C'est quelque chose d'illégal. Et beaucoup de gynécologues le pratiquent, en fait. Et d'ailleurs, ça a été vraiment dénoncé, en fait. Dénoncé surtout en France. Parce que c'est surtout en France que ça arrive. Donc, certaines réactions, enfin...
Mais c'est affreux. Oui. Ouais, mais c'est affreux. La femme ne le sait pas.
Bah non, parce que même le mari ne le sait pas.
C'est encore plus horrible, du coup.
Et tu sais que... Ouais, il y a parfois des hommes, des maris, qui demandent aux gynécologues de le faire... Alors que, enfin, leurs femmes ne sont même pas au courant, ou des gynécologues qui le font directement à la femme, sans demander au mari, sans demander à la femme.
Je trouve ça affreux. Les gynécologues, ils n'ont pas pris une peine.
Bah écoute, en fait, c'est tellement pas mis dans les médias et pas mis en avant qu'on trouve, en fait, tu sais ce qu'ils répondent les gynécologues. Les gynécologues, ils répondent à ça que les femmes devraient les remercier parce qu'ils augmentent le plaisir de l'homme, alors qu'au final, c'est légitime.
Femme, ouais. La femme, elle a plus du tout de plaisir là, du coup.
C'est,
hein,
c'est pas un objet quoi.
Mais c'est clair, c'est pas un objet d'expérience, c'est pas le bonhomme de Frankenstein quoi. Elle vient d'accoucher, déjà, elle a vécu des trucs en mode ça lui fait mal. Et il se permet des choses comme ça, je trouve ça révoltant.
Surtout que, en fait, selon des statistiques qui ont été faites, ces femmes qui ont vécu ça, ben, finalement, elles peuvent plus avoir de rapport sexuel. Ça devient très compliqué et tout, parce que, bon, ben, voilà. Et une fois que c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Et voilà. Et pour un autre sujet, enfin, peut-être une petite réaction de Jonathan. Tu trouves ça comment, toi?
Ouais, bah, c'est dégueulasse, mais est-ce qu'on peut le déceler, ça, après avoir fait les points de suture? Pas du tout. Voir un autre gynéco, par
exemple. L'enlever?
Non, déjà le voir.
Le voir.
De pas savoir si le point de suture c'était au-dessus.
Bah en fait, c'est quand tu vas voir un autre gynécologue ou quoi. Ou bien qu'en fait, en gros, faire ça, avoir des points de suture au-dessus, ça te fait vraiment mal en fait. Au niveau de la femme, ça se sent vraiment pas bien et tout. Des rapports sexuels, ça va pas. Du coup, elle va voir son gynécologue, hein, généralement, ou son docteur. Et c'est là qu'on voit, ou bien elle va à l'hôpital, et c'est là qu'on voit qu'il y a eu des points de suture qui se sont faits.
Mais alors, du coup, ça devrait. Enfin, si elle a une preuve du fait que son gynécologue a fait, on va dire, une expérience sur elle, elle pourrait porter plainte, elle pourrait faire quelque chose.
Bah, en effet, elle pourrait porter plainte, mais après, j'en sais pas plus, parce que, ben, le truc, c'est que cette affaire a pas eu suite, en fait. Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça, mais on n'entend vraiment pas parler. Et je pense que, d'un côté, c'est un peu le gouvernement aussi qui protège les gynécologues, parce que, bon, bah, on est un peu en pénurie de gynécologues en ce moment. Mais voilà, toujours dans la même idée... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on minimise ces actes en les rendant presque légitimes. Quand on regarde, c'est d'ailleurs la façon dont je ressens l'affaire de la pilule contraceptive. La pilule du lendemain. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire, mais en ce moment, il y a peut-être un an, deux ans, beaucoup de pharmaciens revendiquent le droit à la conscience. Je sais pas si vous connaissez, non ?
Non, explique-nous un peu.
Bon, en fait, le droit à la conscience, c'est le fait qu'en gros, t'as certains pharmaciens qui ne veulent pas vendre la pilule ou des trucs contraceptifs parce que c'est contre leur idée, en fait, contre leur idéologie. Et c'est peut-être en train de passer, d'ailleurs. Ça fait que, par exemple, je sais pas, normalement, je sais pas si vous le savez, mais quand on est mineur, on a le droit à la pilule contraceptive, la pilule du lendemain, pardon, gratuitement. Et t'as pas besoin de fournir de pièces d'identité, en fait. De donner ton identité parce que c'est contre la loi.
Enfin, d'accord.
C'est protégé, c'est anonyme. Et il y a certaines jeunes femmes, quand elles vont dans des pharmacies, c'est surtout dans les endroits reculés, en campagne et tout, que ça se passe, dans les provinces, où le pharmacien refuse de donner la pilule. Ou bien il demande le papier, la carte d'identité. Et même s'il demande la carte d'identité, il fait un discours moralisateur en disant « Ah mais non, t'es en train de tuer un enfant là, faut pas le faire !» Voilà, et c'est totalement... c'est refuser de la vendre comme ça, c'est...
Je trouve ça... En fait, je trouve qu'ils ont... Enfin, je pense qu'ils ont aucun droit de dire ça à la femme. De base, si elle vient les voir, c'est qu'elle a pris sa décision et qu'elle sait parfaitement les conséquences que ça aura. Et du coup, je pense qu'ils ont aucun droit de ne pas lui vendre cette pilule. Peut-être qu'ils peuvent, si vraiment ils y tiennent, etc., même si je pense que ils sont complètement hors contexte et que ils ont rien à dire de base, ils peuvent peut-être lui dire je suis pas d'accord avec ce que vous faites, mais de toute façon, ils peuvent pas... Enfin, en fait, je pense que c'est pas normal qu'ils refusent de vendre cette pilule.
Ah, je suis totalement d'accord, c'est pas du tout normal, surtout que, en fait, on a aussi dans un autre registre qui se rejoint un peu, c'est qu'il y a beaucoup de sites de désinformation sur l'avortement. Et en fait, là, ça a été, je sais que ça a été passé il y a pas longtemps par l'Assemblée nationale, une loi contre la désinformation, enfin, c'est punissable de loi maintenant de faire un site pour désinformer, mais avant, ça l'était pas du tout. Et j'ai vu aussi, il me semble que dans les collèges, à un moment donné, il y en avait qui distribuent des tracts en montrant une procédure de l'avortement qui ressemblait pas du tout à ce que c'était, en fait. Pour montrer un bébé, tu sais, qui a déjà 3 mois et qu'on enlève, qui est déjà formé et tout, alors qu'en fait, le bébé, il est pas encore formé. On appelle ça un fœtus, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et est-ce que c'est pour les pharmaciens comme ça, est-ce qu'ils sont, ils ont une peine pour ça? S'ils font le droit de conscience,
par exemple. Les
pharmaciens? Ouais.
Bah en fait, c'est vraiment quelque chose qu'ils demandent en ce moment, mais ça, il y a eu des reportages d'ailleurs, si vous tapez sur YouTube, il me semble, pour les auditeurs, si vous voulez voir, il y a beaucoup de reportages là-dessus en fait, mais bah non, c'est pas punissable de la loi en fait, parce qu'ils font appel à leur clause de conscience, et du coup, bah pour l'instant, il n'y a pas eu de peine en fait. Voilà.
Ah, c'est horrible.
Mais est-ce que, par exemple, admettons que la femme, elle va dire, si jamais je accouche de cet enfant, je le tuerai, toi, pour essayer, entre guillemets, de faire sa, jouer à sa conscience, oui, et vous aurez sa mort à votre conscience, toi.
Ouais, mais tu sais, enfin, la version pour les anti-IVG, c'est vraiment, ils ont, comment dire, tout à l'heure, j'écoutais France Culture, il me semble, ouais, c'était France Culture, et j'écoutais, et ils parlaient, en fait, des droits de l'homme. Ils disaient qu'en fait, les gens qui sont pour l'IVG utilisent le droit, il me semble, le droit des femmes, le droit d'avoir son corps, et les anti-IVG, enfin, les anti-IVG, oui, je crois que je m'étais trompée. Les anti-IVG, eux, ils utilisent la clause du droit à la vie. Et en fait, ben, du coup, c'est assez problématique. Et on va dire que, au niveau, voilà, ceux qui sont anti-IVG, vraiment, dans leur tête, c'est, bah non, on tue pas un enfant. Mais moi, enfin, le premier argument que j'aime bien dire à ces gens-là, c'est, bah oui, bah dans ce cas-là, tu n'utilises pas moyen de contraception. Puisque avec les préservatifs, tu tues un peu un possible enfant, quoi.
Oui, mais après, si on refuse l'avortement, après, on tue aussi la femme, quoi.
Bah oui, ouais, c'est ça en fait. J'avais vu une photo d'ailleurs qui montrait, c'était un jeu de caricature, enfin caricature, c'était un dessin quoi, ouais. Qui montrait une photo d'une femme qui est enceinte et ça disait, enfin les anti-IVG disaient toujours oui, mais ce petit être dans le ventre il a des droits. Et la photo dénoncée disait, ah ouais, mais la femme qu'il porte alors elle a pas des droits.
C'est ça, ouais.
C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Ouais, c'est bien ça.
Mais voilà, c'est vraiment un problème aujourd'hui. D'ailleurs. Il y a une sorte d'hypersexualisation de la femme aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, quand je vais dehors à la Bribus, que je vais voir pour prendre mon bus à Dao, je vois souvent des femmes à moitié nues pour présenter un parfum. Enfin, c'est... Je sais pas, vous en pensez quoi? Enfin, est-ce qu'on a besoin de mettre la femme à moitié nue pour vendre un parfum? Ça a aucun rapport en plus, hein, donc...
Mais la femme devient de plus en plus dans les publicités un objet qu'on vend, et puis comme ça, on attire le regard... Ben. Je suis pas convaincue, mais sur la publicité, et puis ouais, la femme, elle est considérée au rang d'objet avec ça.
Ouais, je pense comme toi. Je pense qu'en fait, la femme, dans ces publicités-là, c'est pas... En fait, on utilise l'image, on va dire, l'image un peu, on va dire, déjà sexuelle, et l'image de beauté que renvoient les mannequins et que renvoient tous ces, on va dire, stéréotypes de la femme belle dans notre société. Donc du coup, en fait, je pense que... En plus, c'est totalement ridicule de mettre une femme à moitié nue pour un parfum. Enfin, c'est encore pour des sous-vêtements, etc. C'est, bah, je dirais pas c'est normal, mais une femme qui arrive... Même moi, tu sais, par exemple, si j'arrive dans un truc comme Rouge Gorge ou comme une boutique de lingerie, voir les articles sur une femme, je dis, bah, c'est pas trop grave. Les articles, c'est ça, c'est la lingerie, quoi. Faut bien qu'ils fassent leur pub, les gars, mais par contre, que la femme soit utilisée tout le temps nue dans les pubs, tout le temps ce côté sexuel, tout le temps ce côté c'est la femme fatale, je pense que c'est de la com qui devrait pas se faire.
Ouais, je vois. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Bah donc, du coup, on va passer à une courte pause musicale. Donc, c'est la musique de Joachim Karoud qui s'appelle Great Day. Donc, on se retrouve après pour parler, continuer sur ce sujet. Donc, on se retrouve, on est de retour. Donc, on va continuer ce sujet de la femme dans le social. Donc, précédemment, on parlait de l'hypersexualisation de la femme. Et du coup, on va passer à un truc qui rejoint un peu Miss France. Alors c'est un sujet qui est assez débattu, surtout en Amérique, parce qu'en Amérique on dit comme ça, parce que c'est pire qu'en France, parce qu'en Amérique il y a des petites de 6 ans qui sont Miss Tennessee par exemple, tu vois.
Et ça commence très très tôt.
Et ça commence très tôt.
Elles sont maquillées, comme des femmes de 20 ans alors qu'elles ont 6 ans.
Et le pire, c'est que parfois on leur met des tenues sexy pour attirer l'œil du jury.
Je crois même que les petites défilent en maillot de bain déjà. Ce qui est, je trouve, aussi révoltant. Mmh. Parce que t'as 6 ans, tu défiles pas sur un podium maquillée comme une fille de 35 avec un maillot de bain, tu vois, genre c'est...
J'ai vu une vidéo, je sais pas si c'est de... Si c'est pas de la vraie info, c'était une petite fille de 6 ans, comme ça, une mannequin qui avait une cigarette dans la bouche. Elle était pas allumée, mais c'était pour faire comme...
Ouais, mais ouais, c'est...
C'était, je crois que je connais, c'est une photographe qui a voulu montrer que... je crois qu'elle essaye de montrer que les enfants, en fait, on essaye de leur... donner un rôle qu'ils normalement n'ont pas et on essaie de les faire grandir trop vite.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une question qui se pose de plus en plus et en France, ça a été interdit puisqu'on considère que les petites de cet âge-là, elles n'ont pas à faire ce genre de choses. Mais il me semble qu'en Belgique et en Suisse, c'est pas interdit. Donc ça sera à vérifier, hein, je sais pas du tout, je le dirai peut-être prochainement. Donc voilà, donc d'ailleurs, à propos de Miss Monde, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, on a appris que Iris... Mitenaere, je sais pas trop comment dire son nom.
Mitenaere.
Désolée, hein. Mais. Oui, ça, je sais, t'inquiète. Voilà. Il y a pas longtemps, un acteur que vous connaissez tous, hein, Danny Boone, qui a fait Bienvenue chez les Ch'tis, hein, franchement, c'est notre acteur préféré. Ou peut-être pas, hein. Enfin, moi, personnellement, ce n'est.
Ça dépend.
Ça dépend, hein, parce dépend que voilà. Ça serait à faire un petit débat. Il parlait de remplacer le visage de Marianne. Je suppose que vous connaissez tous Marianne, hein. C'est un symbole français, hein. Célèbre symbole dans l'histoire française par l'actuelle Miss Monde. Vous êtes pour ou vous êtes contre?
Je suis totalement contre. Totalement. C'est une Miss France, c'est un objet. En fait, je considère que les Miss France sont un peu des sortes d'objets de consommation. Je trouve qu'elles sont... Mais c'est un peu... C'est comme ça, c'est tu rigoles, Jonathan, mais je trouve que c'est ça. Comme ça, quoi. C'est vraiment... la fille, elle renvoie une image de la fille parfaite, etc. Mais
c'est
en fait,
le
finalement...
De la femme.
Exactement. Marianne, c'est pas le... elle est pas là juste pour montrer la beauté d'une femme et son corps en bikini, quoi. Ça, elle représente des valeurs, elle représente des choses qu'en fait, une Miss France ne pourra jamais représenter... Mais aussi engagée soit-elle, et je suis totalement contre cette idée.
Ah, je suis contre totalement aussi. Enfin, je trouve que Marianne, c'est un symbole fort, en fait.
Exactement.
Et je trouve que même si elle était élue Miss Monde, notre Iris, je trouve que ça peut pas être un symbole comme ça. Je pense que Miss France, je suis totalement contre. Je ne regarde pas. Je boycotte cette émission chaque année.
Oui.
Parce que je trouve que, voir des femmes en bikini, ok, d'accord, Iris, elle a eu, il me semble qu'elle a eu une très très bonne note, ou bien c'était Camille Cerf qui a eu une bonne note au concours de culture générale, hein, mais au test, hein, mais je trouve que, c'est juste le physique, en fait. Je trouve que c'est totalement révoltant qu'on montre aujourd'hui, maintenant, des femmes comme ça. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup parler des hommes qui sont Mister France. Donc, Sarah m'en a touché un mot tout à l'heure. Donc,
ouais, en fait, c'est parce qu'on se posait la dernière fois la question avec mes amis. On parlait des Miss France, etc., juste après le concours. Et en fait, je leur ai demandé, mais vous savez pas s'il existe des Mister France ou des hommes France, qui sont élus comme des Miss France, etc. Et du coup, on a fait des recherches sur Google. Et en fait, ça existe. Il y a un concours Mister France. Je crois même qu'il y a des concours pour dans le monde, etc., qui sont un peu équivalents à Miss Univers. Et en fait, on n'en parle pas. On n'en parle presque pas. D'ailleurs, c'est même pas diffusé sur des grandes chaînes, etc. Ou alors c'est diffusé dans... on n'en parle pas, justement. Et je trouvais ça... je trouvais que ça renvoyait encore à cette image de femmes-objet et de femmes qui attirent le monde et on se sert un peu de leur visage, de leur corps pour attirer les foules et faire de l'audimat. Et en fait, c'était... Du coup, ça existe, mais je trouve que le côté je rends public l'élection Miss France et pas l'élection Mister France, je trouvais que ça avait encore cette connotation femme-objet sexuel et femme-objet de consommation un peu. Et donc, du coup, voilà, En fait, je suis contre le côté... je suis contre, d'ailleurs, ces élections Miss France. Je trouve ça complètement inutile, une Miss France, n'importe quoi. Je vois pas pourquoi on fait pas des trucs plus engagés, etc. En mode, on donne des prix aux gens qui le méritent vraiment, au lieu de donner au prix à la fille qui a monté les échelons en mangeant une feuille de salade et une galette de riz par jour, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais je trouve qu'en fait, ouais, ça, c'est vraiment ces connotations que j'aime pas du tout qui me forcent, enfin... qui me disent, bah, regarde pas Miss France, ça sert à rien, quoi. Vraiment, c'est le genre de truc dans lequel on se passe très bien.
En plus, ces filles-là ne représentent pas la France, elles représentent une partie. Parce qu'en plus, elles sont classées, il doit avoir telle taille, tel poids. Donc, une femme en France et même dans le monde, c'est son divers peut être grosse, fine, petite, grande. Donc, c'est pas ça, c'est pas une femme Miss France qui doit représenter toute la France.
En fait, on est d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup. C'est des critères, en fait. C'est des critères de beauté qui, en fait, ne représentent rien. Une femme belle, je suis désolée, ça doit pas me gérer 1m78, faire 60 kilos. Une femme belle, elle peut peser 100 kilos et faire 1m60. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais vous voyez, je trouve qu'en fait, c'est des références dont on n'a pas besoin et qui, au contraire, nous classent. Et c'est comme ça qu'en fait, on se divise, même au sein des femmes. Quand je vois, par exemple, des filles autour de moi qui font 50 kilos et 1m70 et qui se regardent et qui disent « Ah, je suis super grosse, vraiment, il faut que je fasse un régime. » Et je les regarde, je fais « Mais n'importe quoi, quoi. T'es pas là à ne plus pouvoir bouger, à te balader en fauteuil roulant parce que t'as trop de poids. T'es fine comme tout, on dirait des cure-dents. » Et en fait... C'est des références dont les filles, et surtout les jeunes filles, parce que c'est les petites filles qui regardent ça en mode « Ah, c'est des princesses et tout ». Je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça. Après, ça leur fait un peu pas perdre leur confiance en elles, mais une fille qui va être toute fine, à 12 ans, elle va dire « Ah ben moi, je veux faire Miss France plus tard ». Et puis finalement, la fille qui sera un peu plus grosse à côté, en fait, elle va se sentir moche alors qu'elle est même plus belle que la fille qui ressemble à un cure-dent assise à côté d'elle dans le canapé, quoi.
Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un livre... Enfin, je connais pas du tout le nom, mais je pense que je pourrais le dire dans la prochaine émission si je m'en souviens, si je retrouve. Mais il me semble qu'il y a deux féministes qui sont françaises et qui défendent le droit, enfin, qui défendent le fait qu'en gros, on voit beaucoup de garçons qui sont super-héros. On voit, voilà. Bon, ok, nous on a Wonder Woman, j'ai plus parlé.
Wonder Woman,
voilà. Mais elle a moitié à poil, donc bon, c'est pas vraiment un exemple. Puis je trouve en fait. Ces femmes-là, elles expliquaient en fait que souvent, dans les contes pour enfants, tout ce qui est contes, bah en fait, elles ont fait une expérience, elles ont pris une bibliothèque et elles ont enlevé chaque livre. Un qui parlait de. Comment ça s'appelle ? Où il n'y avait pas d'héroïne, enfin, où l'héroïne, elle était soumise à l'homme. Un où il n'y avait que des hommes. Et en fait, on tombait qu'à trois livres et elles ont créé un livre où, du coup, il y avait. Comment dire, où on montrait en fait toutes les femmes qui avaient été des héros en fait, durant toute l'humanité, pour donner des super-héros, enfin des modèles, des exemples aux filles, et pour pas qu'elles se calent sur l'image de la petite princesse. Donc,
En parlant de ça, en parlant de référence, je trouve ça extraordinaire ce genre de femmes qui se battent un peu pour montrer que bah, les femmes peuvent être des héroïnes et que exactement comme les hommes peuvent être des héros. Et moi, là, du coup, là, je viens de penser à un film qui s'appelle Mince alors. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est avec un homme qui gère des mannequins, etc., et qui, du coup, en fait, voit des filles super minces tout le temps autour de lui, et il l'envoie un peu en cure de... En gros, il l'envoie dans une cure pour qu'elle fasse régime et qu'elle perde du poids. Et en fait, ce film, je le trouve génial parce que, bah, quand elle arrive en cure, il y a plein de gens qu'on va dire gros autour d'elle, mais ça montre qu'en fait, ces gens-là, ils sont même plus beaux à l'intérieur et plus beaux à l'extérieur que certaines filles qu'on voyait dans l'agence de mannequins du mari, genre 5 minutes avant. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie, on va dire, et un bel exemple pour dire que, ben, en fait, on est ce qu'on est, et qu'on soit gros, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on ait des cheveux tel truc, etc. En fait, on est tous beaux à notre manière, et que, ben, il faut pas suivre ces mannequins qu'on voit dans les magazines, et il faut pas dire « moi, je veux ressembler à ça ». En fait, il suffit juste de s'accepter, et à partir du moment où on s'accepte, les autres autour de nous s'acceptent, et c'est à partir du moment-là qu'on devient beau, je trouve.
Ouais, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de films, c'est le point film, là, point culture, il y a d'ailleurs un film qui est à l'affiche au cinéma Pathé, bah, du coup, dans la région, et aussi dans toute la France, qui s'appelle Les Figures de l'Ombre, je sais pas si vous connaissez.
Ouais.
C'est un film que je vais sûrement aller voir dimanche, parce que je trouve que, enfin... En parlant de héros, parce que tout à l'heure j'en ai parlé, en fait, c'est l'histoire de femmes noires qui ont participé à la création, il me semble que c'était sur un truc spatial,
ouais,
sur, lors de la conquête spatiale. Exactement. Durant la guerre froide.
Ouais, c'est ça.
Et ça montre vraiment un message d'égalité. Elles y vont et elles en donnent, et elles sont meilleures en mathématiques que les hommes, et elles prouvent qu'elles aussi elles peuvent le faire, même si c'est des femmes. Et du coup, c'est extraordinaire, tout en plus qu'elles sont de couleur noire et qu'à ce moment-là, c'était pas vraiment accepté par la société.
Ouais.
Donc voilà, donc tout à l'heure je parlais de égalité salariale, point dont j'ai légèrement parlé en début d'émission. Du coup, pour vous, qu'est-ce qui rend cette égalité difficile, notamment en France?
Je pense que c'est... En fait, je pense que c'est ancré dans notre culture de dire que les hommes ont toujours été plus puissants. Et en fait, c'est... Je pense que l'égalité des salaires repose surtout sur la... On va dire qu'on ne pourra pas avoir une égalité des salaires tant que l'homme sera toujours en quête de puissance et voudra toujours montrer qu'il est le plus fort. C'est... De base, on avait des égalités, etc. Et c'est à partir du moment où l'homme a dit « femme, tu feras ça » que on a perdu ces égalités. Et je pense que l'égalité des salaires, c'est exactement pareil. C'est à partir du moment où l'homme a dit « c'est moi le plus fort et c'est moi qui domine et toi, tu feras autre chose et tu seras forcément moins puissante que moi ». Et du coup, en fait, je pense que l'égalité des salaires... Ça repose surtout sur ça, sur le côté je suis un homme et c'est moi le plus fort qu'il y a dans cette société. Puisque pareil, pour nos hommes politiques, etc., quand on regarde, on n'a pas beaucoup de femmes politiques, on n'a pas beaucoup de femmes en assemblée, etc. Dans nos élus, il n'y a pas énormément de femmes, même si ça commence à changer un peu, mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu énormément. Et je pense qu'en fait, c'est ce côté homme et pouvoir qui bloque un peu cette égalité.
Ouais, puis aussi le fait que la femme a commencé à vraiment travailler après, ce qui fait qu'elle est moins reconnue peut-être dans le monde du travail. Et le fait aussi que t'as dit que les hommes voulaient toujours être plus puissants que les femmes, donc ils les rabaissent toujours plus et elles sont actuellement toujours moins payées dans tous les domaines.
Ouais.
Déjà en plus, ça arrange aussi entre guillemets les patrons, parce que quand ils engagent des femmes pour travailler, forcément ils payent moins cher pour le même travail qu'ils font un homme. Mais il y a certains métiers, notamment militaires, où les femmes sont payées exactement comme un homme, selon le grade.
Ah, je savais pas.
En fonction de, mais dans les professeurs, etc., au niveau de tout ce qui est éducation nationale, ça aussi, les hommes sont payés pareil que les femmes. Mais c'est tellement minime, ce ouais. genre de métier, qu'ils passent un peu à la trappe. Et donc, du coup, en fait, l'égalité, elle est toujours pas là, quoi.
Surtout que je pense que moi, l'égalité salariale, enfin... C'est un très bel avis que t'as, Sarah, ou bien même Salomé, ou bien Jojo aussi, hein. Mais je pense que... Enfin, moi, je le voyais pas de cette façon-là. Je pense qu'en fait, j'ai beaucoup parlé avec un ami qui est, lui, plutôt terre-à-terre par rapport à ça. Enfin, il est fort dans le truc... Enfin, il aime bien avoir des chiffres et tout pour montrer ce qu'il pense. Mais je pense qu'en fait, l'inégalité salariale, aujourd'hui, en fait, elle est... L'égalité salariale n'est pas là parce que, justement, en fait, le truc qui est différent entre la femme et l'homme, c'est que la femme peut tomber enceinte. Et que du coup, je pense que si on était PDG, ou bien du point de vue d'un PDG, peut-être qu'il se dit que en engageant une femme, ça fait la possibilité qu'elle puisse être enceinte et ça lui fera perdre des bénéfices, quoi. Enfin, ça fera perdre de l'argent. Après, je suis totalement contre. Enfin, je trouve que l'égalité salariale, c'est vraiment un droit. D'ailleurs, à propos de ça, tout à l'heure, je parlais du premier ministre islandais. Et l'Islande est d'ailleurs le premier pays à avoir instauré l'égalité salariale. On en parle beaucoup en France, on a des lois, j'ai vu, qui avaient été faites. Mais ça n'a toujours pas été mis en pratique théoriquement, puisqu'il y a toujours des métiers où, pour la même qualification, les hommes sont payés plus que les femmes. Mais je pense que vraiment, c'est un beau message de la part de l'Islande et ça mérite d'être reconnu. Donc voilà. Et du coup, pour reparler sur le sujet de la maternité, hein, puisque j'en parlais il y a quelques secondes, on parlait des congés paternité il n'y a pas si longtemps que ça à l'Assemblée nationale. Donc, des congés paternité, égaux à ceux des congés maternité. Parce que, faut dire, je sais pas, vous devez peut-être le savoir ou non, hein, ça se peut, mais en fait, après l'accouchement, en fait, vu qu'au niveau des hôpitaux, on laisse environ une journée à la femme pour se reposer.
Oui.
Elle accouche directement, on la fout dans le lit, on prend le bébé, on la fait revenir. Elle a même pas dormi 2 heures. On lui dit il faut changer les couches, il faut donner des biberons. Et la femme, on appelle ça, enfin je sais plus, c'est le baby blues, il me semble. C'est si je me souviens bien du terme. Et cette femme fait une dépression. Et on dit souvent à l'homme, non mais vous inquiétez pas, elle fait le baby blues. Et parce que justement, on donne à la femme beaucoup de congés, c'est vrai, je crois que c'est... Je me souviens plus du tout des chiffres, hein, je n'aimerais pas dire des idioties, mais il me semble que l'homme a environ une semaine, il me semble, je sais
ouais,
pas.
Ouais, c'est ça,
une
ouais.
semaine. Et il me semble que c'est beaucoup plus pour la femme, mais pour vous, est-ce que les congés paternité devraient être aussi importants que ceux des congés maternité.
Bah, moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, enfin, la femme a un gros congé, ce que je comprends parfaitement, parce que bah, c'est un peu elle qui fait tout le boulot, etc. Et c'est elle qui accouche, et donc c'est elle qui souffre, on va dire. Mais finalement, en fait, je pense que allonger le congé paternité, ça montre aussi que l'homme peut... En fait, pas mettre les deux congés en même temps, ça c'est de toute façon pas possible.
C'est débile.
Mais faire un congé paternité aussi long qu'un congé maternité, ça veut dire que ben, l'homme peut aussi bien s'occuper de l'enfant que la femme. Et c'est des moments, par exemple, les pères... Je sais qu'il y a énormément de pères maintenant qui adorent être au foyer, qui adorent s'occuper de leurs enfants et qui adorent en fait, partager ces moments de complicité. Et je pense que le congé paternité, ça leur permettrait justement de partager le début, par exemple, faire un congé paternité au début des premiers mots, des premiers pas, au niveau de la première fois qu'il fait quelque chose, etc. Et je pense que c'est des moments de complicité qu'il ne peut pas avoir quand il est au travail. Donc moi, je suis pour l'allongement du congé paternité.
Deux avis. Bah, genre, t'en penses quoi?
Bah, juste pour aussi. Mais bon, après, il faut pas prendre non plus le congé paternité quand le gosse a 10 ans, quoi. Ça sert à rien.
Non, mais non, c'est sûr que, ouais, t'en as pas besoin à ce moment-là.
Bon, je vais prendre quand même les congés, on sait jamais. J'ai dit, non. J'ai des repos. Non, mais c'est vrai, comme ça, en plus, ça va peut soulager la femme
aussi.
Déjà, parce que déjà, si elle est seule à s'occuper de l'enfant et de toutes les tâches qui sont à la maison,
mais oui.
Ça fait du pas. Parce que et moi. Puis... Parce que moi, je fais par exemple quelques tâches ménagères. J'ai dit, bon, je fais un petit peu. Bah, vas-y, pas.
Et puis, en fait, je pense que la femme, elle a pas besoin d'être tout le temps à la maison à s'occuper des enfants. Je pense qu'elle a besoin d'une vie extérieure et de retrouver son travail, de retrouver la vie active. Et donc, du coup, l'enfermer un peu dans ce congé en disant, bah non, vous avez un enfant dont vous devez vous occuper. En fait, ça la bloque. Je pense que la femme a besoin aussi, par exemple, peut-être pas quelques semaines, etc., mais elle a besoin aussi de voir le monde autour. Et je pense que le congé paternité, le fait de dire que ben, l'homme aussi s'occupe de l'enfant et l'homme gère un peu les tâches pendant que la femme est partie, je pense que ça peut l'aider, justement, parce que tu nous parlais du baby blues. En fait, le baby blues, c'est juste la femme qui en a marre d'être tout le temps à faire toutes les mêmes tâches et tous les jours à s'occuper des mêmes choses, etc. Et du coup, je pense que ça peut l'aider à...
souffler.
Bah ouais, à souffler, exactement.
Ouais, je suis totalement d'accord. Donc bah du coup on va se retrouver après une courte pause musicale de Tristan Lohengrin, Look at the Cloud. Donc à tout de suite. Donc on est de retour, donc on va parler maintenant de quelque chose qui est assez commun aujourd'hui en société. Donc je connais pas mal de gens qui désignent les féministes par le sympa surnom de féminazie. Donc on va poser la question, faut-il une limite au féminisme ou il n'y en a pas?
Ah si, forcément il faut une limite, parce que s'il n'y a plus de limite, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la femme qui veut mettre à terre l'homme et qui veut dominer. Surtout, et c'est pas le but, je pense, du féminisme.
Ouais. C'est vrai que, mais en plus, quand on regarde maintenant, il y a beaucoup de féministes qui se battent pour diverses causes. Enfin, c'est vraiment très, très, très large. Donc, voilà. Quelque chose à dire
Non, je pense comme vous. Je pense qu'en fait, il faut une limite parce que, bah, justement, comme on disait tout à l'heure et comme vient de le répéter Salomé, le féminisme, de base, c'est pas la suprématie de la femme, c'est l'égalité homme-femme. Et donc, du coup, il faut que ça reste dans cette voie d'égalité et pas dans cette voie de « on va vous écraser les hommes et on sera les plus puissantes, quoi ».
C'est bah, vrai, c'est vrai.
Bah après, elle veut montrer ce qu'elles ont vécu depuis plusieurs années aussi.
Oui, peut-être, mais ça ne fonctionne pas comme une vengeance. Ouais, en fait, le but, c'est pas de se venger. Le but, c'est d'avoir l'égalité et de prouver aux hommes que bah, c'était dur, mais que justement, il faut qu'ils changent. Et ça, il ne faut pas se venger d'eux. Enfin, il faut juste leur expliquer et leur montrer que bah, justement, le but, c'est que tout le monde soit égaux et pas que l'un domine l'autre. Parce que bah, ouais, provoquer le malheur des gens, c'est pas la peine, quoi.
Ouais, je pense que ce que disaient les fémines, en fait, ils se souviennent, ils pensent à ce que les hommes avant faisaient avec elles, quoi. Et puis elles veulent se venger, mais comme disait Sarah, c'est pas du tout la bonne solution.
Ouais, il y a un esprit de vengeance derrière ça. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a quelques secondes, Sarah parlait de domination sur les hommes, sur les femmes. Ouais. Donc on va parler de quelque chose qui circule pas mal en ce moment. Enfin, il y a une pétition qui circulait il y a quelques mois. C'est sur le fait qu'au bac français, enfin, surtout en L, il me semble, en littéraire, dans la filière littéraire, on met beaucoup trop d'auteurs, enfin beaucoup trop, on met beaucoup d'auteurs masculins, enfin d'hommes, et pas beaucoup d'auteurs au féminin.
Alors, je suis pas totalement d'accord, parce que moi, l'année dernière, j'ai étudié pas mal d'auteurs françaises, du coup, de femmes qui écrivaient des livres, etc., et on a pas mal bossé sur ça. Par contre, je suis d'accord avec toi dans le domaine de la philosophie. Mais ça, je dois t'avouer que après un an de philosophie, je connais pas énormément de philosophes à part ceux qu'on bosse en cours et tout. Je sais pas s'il en existe énormément des féminines, mais en français, je trouve qu'en première, comme tu dis en première L, je trouve que on bosse pas mal avec les femmes. Au contraire, je pense que ça a évolué par rapport à ce qu'on faisait avant.
Après, ce que disais avec la philosophie, peut-être que les femmes avant, elles avaient pas le moyen de s'exprimer
peut-être,
autant que les hommes. Du coup, c'est moins étudié.
Ouais, peut-être.
Mais après, moi, je pense. Enfin, moi personnellement, bah voilà, dans mon lycée, bah du coup, en première L, bah franchement, j'ai vu que des hommes.
T'as vu que des hommes?
J'ai vu que des hommes. Après, je pense que ça dépend des profs aussi. Quoi.
Ouais, parce
mais
que
moi, j'avais une prof qui était une femme et on a vu quasiment que des hommes. On a dû voir peut-être deux femmes quoi, dans l'année.
Ouais, parce que ouais, c'est possible. Parce que c'est les profs qui choisissent un peu les livres qu'ils étudient en fonction des thèmes qu'ils ont dans l'année. Donc, ça, c'est possible que ça diffère au niveau des lycées aussi. Peut-être que oui.
Du coup, il faut savoir qu'il y a une pétition en ligne hein, pour ceux qui veulent la signer. On sent qu'on peut la trouver facilement avec une recherche Google. Hein. C'est possible. Donc, c'est une pétition qui est légitime dans certains cas, parce que comme le disait Sarah, dans certains lycées, ça fonctionne assez bien, le système homme-femme. Mais dans le mien, ça fonctionne pas tellement bien que ça. Mais après, ça dépend des profs. C'est les profs qui font le programme.
Oui, après, les profs n'ont pas peut-être cette idée en tête de mettre que des hommes. C'est juste que les écrits dans le thème étudié, c'est plus intéressant.
Ou bien c'est plus intéressant, ou bien ils sont peut-être meilleurs dans un cas. D'ailleurs, Sarah l'évoquait tout à l'heure, la parité homme-femme en politique. Oui. Donc, il y a le candidat à présidentiel, Emmanuel Macron, qui clame vouloir instaurer une parité homme-femme chez les députés. Votre avis sur ça? Est-ce que c'est de la manipulation médiatique ou est-ce que ça part vraiment d'un bon sentiment? Difficile comme question.
Ouais, c'est un peu difficile parce que, en fait, moi, je pense que c'est un peu une idée de com' aussi de la part de Macron. Je pense qu'il se sert un peu du fait que les femmes veulent un peu avoir leur place en politique, parce qu'il faut avouer que pour l'instant, elles l'ont pas beaucoup. Je ne m'y connais pas trop en politique, etc. Mais là, pour l'instant, il y a pas beaucoup de noms dans ma tête qui ressortent au niveau des femmes. Et donc, du coup, je pense que peut-être que ça part d'un bon sentiment, mais je suis même pas sûre qu'à la fin, il le fasse vraiment. Je pense que c'est plus un coup de com'. Voilà.
Ouais. Bah, après, moi, je pense que, j'ai vu des statistiques qui disent que maintenant, ceux qui sont candidats à la présidentielle, ils essaient de gagner les voix féminines. Bah, parce que, comme disait Sarah, c'est compliqué. Enfin, contre Mélenchon, qui est la proie des féministes en ce moment, j'ai vu beaucoup de gens l'attaquer parce qu'il parle de. Enfin, à un moment donné, il parlait des femmes et ça n'a pas plu à certaines féministes. Après, entre Emmanuel Macron qui veut faire la parité homme-femme en député avec son projet, je crois qu'il y a un projet, c'est En Marche, il me semble, c'est le projet En Marche.
C'est possible. Oui, c'est En Marche.
C'est possible. possible. Et bon, moi j'aime bien Emmanuel Macron. Enfin, c'est quelqu'un que je trouve qui a du charisme, hein, comme tout. De toute façon, maintenant, avec politique, de la rhétorique en fait. Le
politique
hein,
a du charisme.
Ouais, voilà.
Ils ont tous un peu de charisme. Mais entre François Fillon, Mélenchon, Macron et Marine Le Pen, hein, qui dit être pour les droits des femmes, mais spécialement elle a rien fait, puisque si on regarde dans les statistiques, en effet, on regarde que le FN, qui ont que 2 députés. Hein, ça m'a assez étonné moi. Mais et ben ils ont refusé toutes les lois pour les femmes. Par exemple, tout ce qui était avortement, ils ont refusé. Ils étaient vachement contre. Après, je trouve que, enfin, pour un parti qui est un peu, personnellement, je trouve que c'est un parti un peu raciste. Je trouve que, enfin, voilà, c'est-à-dire pour les femmes, c'est un peu trop gros là. Enfin, faut pas aller tellement loin là. Ils vont se casser un bras. Enfin, c'est se casser la voix. Oui. Donc après, moi, je trouve que c'est manipulation politique, hein, tout simplement, parce que ils veulent gagner des voix, et la voix des femmes, et bah, déjà que les femmes, au niveau politique, elles sont pas très impliquées, puisque sont des chiffres, on a 455 hommes députés pour 150 femmes députées, ce qui est quand même une réelle avancée quand on regarde les chiffres d'il y a 20 ans.
Avant. Oui, mm-hmm. Peut-être, mais je trouve que on a quand même 300 personnes de différence. Oui.
C'est vrai.
Donc, il y a quand même un bel écart. Même si on augmente au fur et à mesure, je pense que c'est quelque chose à changer, et voilà. Mais après, le problème, c'est que, comme, enfin, Macron, peut-être qu'il va réussir à mettre des femmes, etc., à l'Assemblée, mais c'est toujours pareil, les politiques, s'ils mettent, ça sert à rien de mettre des femmes à l'Assemblée pour qu'en fait, directement, les hommes leur disent, mais on vous croit pas, vous êtes des femmes. Tu sais, je pense qu'en fait, c'est une question de, pas de maturité, mais une question de mentalité, exactement, une question de, ben, ouais, si on met des femmes, vous les écoutez, quoi, un point final, si elles sont là, c'est qu'elles ont le droit d'être là, et le but, c'est pas de mettre des femmes juste pour dire, ben, on a la parité homme-femme.
Sous toute petite blague à part, hein, ça sont tous comme Pénélope Fillon, ça risque d'être compliqué d'avoir un réel
avis.
Parce qu'elles vont être un peu paumées, hein, entre assistantes parlementaires, mais non, elle fait des rubriques littéraires. Bon, c'est un peu compliqué cette histoire, hein, surtout que voilà. Autre sujet sur lequel on peut parler, c'est vraiment un sujet dont je pense qu'on a tous été confrontés un jour, le harcèlement de rue.
Oui.
Voilà, une réelle peur chez les femmes. Chez vous, enfin, par exemple, je m'adresse particulièrement à Salomé et Sarah, parce que, bon, Jonathan, tu es un homme, hein.
Harcèlement des femmes,
écoute,
bah oui.
Harcèlement des femmes.
C'est moi qui harcèle les femmes.
Mais oui, oui. Non, mais c'est toi, t'es dans la rue, t'attrapes les femmes. Non, mais est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la rue? Tout simplement.
Ça dépend dans quelle rue.
Oui, ça dépend des endroits.
Je dois t'avouer que ça dépend dans quelle rue.
Aussi.
Bah, ouais, ça dépend dans quel moment de la journée. Moi, je dois t'avouer que, bah, par exemple, je traîne beaucoup sur Arras, parce que je suis au lycée sur Arras, pardon. Sur Arras, ça va. Je trouve que, honnêtement, t'as pas trop de regards en mode de « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien foutue celle-là » ou alors de gens qui nous sifflent, etc. Par contre, je suis pas sûre qu'en baladant dans les rues de Lens ou dans les rues de Liévin...
Lens, le soir, ça...
Ce soit le même cas.
Il y a des bars et puis tu passes devant. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, enfin, c'était pas bien. Tu passes devant et puis les gars, ils te passent, puis tous comme ça, ils te regardent
ouais,
et puis...
Ouais, c'est
te...
pour ça.
Ah non, mais c'est totalement horrible. D'ailleurs, moi, je sais que ça m'a pris au moins 3 ans pour porter une jupe ou une robe, parce que j'osais pas. Enfin, au lycée, déjà, je me sentais un peu regardée. Ça, c'est la photo jeune homme là-bas, hein, enfin, Jonathan, parce qu'il m'a offert une jupe, alors du coup, j'étais bien obligée de la porter. Hein, bon, quand on offre des cadeaux, faut les mettre. Hein.
Ah ouais, bien sûr.
Donc, je veux dire, c'était assez gênant. Je sais que dans la rue, maintenant, j'ai toujours un peu peur de porter des jupes ou quoi, ou bien même, je sais pas si vous voyez le genre de bottes qui arrivent jusqu'aux genoux, là.
Les cuissardes,
j'oublie tout le temps le nom, mais voilà, je pense que c'est toujours un peu compliqué, parce que les gens te regardent un peu toujours bizarrement. Je me sens pas spécialement en sécurité. Je sais que, par exemple, j'avais fait un big up tout à l'heure à Mélissa, j'en refais un. Mélissa, par exemple, elle fait un sport de combat, donc elle, même si elle apprend des techniques de combat, elle voit toujours que face à des gars qui sont un peu plus baraques qu'elle, c'est toujours un peu plus compliqué.
Mmh. Bah forcément, c'est... Tu dis tout de suite, le gars, il prend, t'as beau faire un sport de combat, il a vite fait de te mettre par terre et de te maîtriser, quoi.
Ouais, ouais. Ah oui,
t'as pas forcément le temps de réagir.
Tout dépend du sport, parce que le sport que Mélissa le fait, c'est plus de la technique. Donc si un homme, donc, il pourra toujours... le maîtriser avec sa force brute.
Bah oui, c'est pour ça. Donc du coup, je pense que c'est ça aussi. Et puis après, tu disais par exemple aux jupes, etc. Je pense que même dans les lycées, enfin en fait, le problème de maintenant, c'est que tu mets un pantalon et des baskets, on te dit, bah c'est bon, tu pourrais t'habiller plus de façon plus féminine et tout, tu ressembles à un garçon, t'es super moche. Et à partir du moment où tu mets une jupe ou une robe, etc., un truc tout simple,
tu deviens pute.
Les gars, ils te regardent, ils font, oh là là, elle s'habille vraiment comme n'importe quoi et tout. Elle fait son aguicheuse, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, c'est juste que bah t'adores cette robe et que tu te sens bien dedans et que bah il fait beau. Par exemple, là aujourd'hui, je mets une robe, je suis sûre que si je rentrais chez moi à pied là tout de suite, j'aurais des regards de gars en mode, ah là là, vraiment. Enfin, c'est ce genre de truc. Je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on porte... On porte pas forcément les vêtements qu'on veut par rapport à ça, par rapport au point de vue des autres, et je trouve ça bien dommage.
C'est triste,
ouais,
de...
Après, j'allais dire oui qu'il faut un peu se moquer du regard des autres. Mais bon, après, s'en moquer, c'est peut-être prendre le risque de...
En fait, c'est très dur, je trouve, oui, de se moquer du regard des autres, de se moquer du regard des hommes, des femmes. Enfin, là, c'est le regard tout court. Hein. Je pense que c'est... T'as beau te dire que bah, tu t'en fous de ce que les autres disent quand les gens, ils te regardent mal et qu'ils te regardent en mode, on dirait, une extraterrestre. Au fond de toi, tu le sens même. Tu sens les regards un peu pesants sur toi, etc.
C'est vrai.
Et c'est pareil dans la rue. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais par exemple, moi, quand je rentre le soir, il y a des fois où j'arrive, par exemple, en hiver, etc. Il y a que des relous qui traînent dans ma ville. Et donc, du coup, en fait, ils te regardent en mode « Ah là là, celle-là, on la... » Enfin,
on la prendrait bien, quoi.
Ouais, exactement. On la prendrait bien dans un coin. Et du coup, t'es là en mode « Faut vite que je rentre chez moi parce que sinon, il va m'arriver des trucs et... » Ça fait peur, en fait, t'as plus envie de rester chez toi dans une couverture comme ça, en mode laisser-moi
tranquille. C'est un gros problème, je trouve, parce qu'on peut même plus sortir librement sans se sentir observé, et voilà, quoi.
Et d'ailleurs, on va parler sur un sujet qui est un peu différent, mais qui montre toujours un peu la domination homme sur femme. Hein. Jonathan, là, ils sont un peu mal, ils sont en mode reculé, en mode je suis un homme, je suis un truc.
Mais non,
j'ai pas peur.
Disons la galanterie. La galanterie, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Moi, je sais que dans mes amis, je suis jamais d'accord, parce que je suis vraiment extrême. Est vraiment très extrême.
Ouais.
Pour vous, déjà, la galanterie, c'est quoi?
Attends,
toi.
De la courtoisie. En tant qu'homme,
tu fais quoi? C'est quoi?
Bah, par exemple, je laisse passer à chaque fois les femmes devant moi. C'est toujours ça. Toujours honneur aux femmes. Moi, c'est toujours comme ça. Par exemple, quand je suis dans un magasin où il y a beaucoup de filles, malheureusement, et ben,
dépasse jamais. Voilà. Il passe pas, il tient la porte.
Ben, j'ai du mal à circuler dans le magasin parce que c'est toujours honneur aux dames. Alors à chaque fois, je fais passer les femmes devant moi. Donc c'est un petit peu long pour moi pour circuler. Mais pour moi, c'est courtoisie, sinon être élégant, tu vois, quelqu'un de galant pour moi.
Oui, je vois Jonathan, puisque la dernière fois, on était à deux, on faisait les boutiques à Primark à Lille. Et il y avait que des femmes quasiment. Et lui, il laissait passer toutes les femmes. Je disais, mais allez, Jonathan, avance. Ah non, je laisse passer toutes les femmes. Et là, il n'avait pas fini. Il restait à l'entrée du magasin pendant 10 ans. Mais bon, après.
Et tu laisses passer les hommes?
Non.
Voilà, c'est ça la galanterie. Je suis pas d'accord, moi.
Alors, moi, en fait, je pense que galanterie. En fait, j'aime pas trop le mot galanterie parce que c'est très. Comme le dit Jonathan, c'est la femme en prums, mais donc du coup, moi, je suis plus pour la courtoisie dans les deux sens. En fait, par exemple, il y a un homme qui arrive devant toi, ou même qui est derrière toi à la porte, il est vraiment tout proche, etc. Tout la porte, tu le laisses passer, et après, un homme fera pareil avec une femme, qu'une femme fera avec un homme, et du coup, je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que la galanterie en mode comme tu fais Jonathan, c'est très bien, hein, je dis pas que c'est mauvais, etc. Mais par exemple, je pense qu'une femme devrait aussi te laisser sa place. Par exemple, elle voit que t'es là, t'attends depuis 10 minutes à l'entrée de Primark pour que tu puisses rentrer avec ta pote, etc. Je pense qu'elle devrait aussi te laisser passer et dire bah non, allez-y, point final, au lieu de dire bah, je suis une femme, je passe avant vous, tu vois.
Totalement d'accord.
Ça marche dans les deux sens.
Après, moi, j'ai totalement même avis et j'ai beaucoup d'amis qui sont contre moi parce qu'ils disent ah mais non et tout. Et même j'ai des amies féminines, hein, des filles quoi, qui pensent qu'en fait bah non, la galanterie on doit le garder parce que ben finalement, même s'il y a il y a du sexisme et tout, même si voilà, pour moi la galanterie c'est vraiment on devrait appeler ça courtoisie, je pense, hein, comme tu disais Sarah. Oui. Je pense qu'on devrait appeler ça courtoisie parce que pour moi c'est de la politesse en fait, tout simplement.
Oui,
et je pense que le truc de galanterie, dire ah là mais t'as vu je suis galant, hein, je trouve que ça se fait pas, enfin je trouve que c'est sexiste en fait. C'est dire que la femme ok, on lui tire la chaise parce que ben voilà, c'est une femme, elle est fragile.
Pour moi je dois dire même quand tu lui tires la chaise, je trouve qu'en fait tu lui tires la chaise quand c'est Tu lui tires la chaise quand c'est une vieille dame, quoi, ou même quand c'est ta copine ou ta femme, etc. Mais ça, c'est plus un côté romantique. Une femme, elle sait s'asseoir toute seule.
Oui,
hein,
c'est
exactement comment ça sort dessus. Aller, ouais.
Le fait de l'indépendance aussi par rapport aux hommes qui payent les restaurants aux femmes, et puis les femmes qui se laissent payer le restaurant. Enfin, la femme peut payer le restaurant à l'homme, et l'homme peut payer le restaurant à la femme. Et c'est un. C'est parti du principe que la femme, elle est. Elle est pas dépendante, elle est pas.
Elle dépend pas de l'homme. Ouais, voilà. En fait, femme, elle est
indépendante.
Sait faire, elle est indépendante, et donc du coup, par exemple, une fois c'est l'homme qui paye, une fois c'est la femme qui paye, et point final. Enfin, c'est.
Mais voilà.
C'est plus fort que moi.
Attends, il est pas très. Oui.
Mais je pense aussi que c'est une question d'éducation. Je pense qu'on t'a éduqué comme ça. Ouais. Par exemple, tu disais au niveau de la femme qui ne paye jamais les restaurants, etc. Dans certains pays, comme par exemple là, je prends le Vietnam parce que je m'y connais un peu, la femme ne payera jamais rien.
Oui.
La femme, elle se fait offrir des vêtements, elle se fait offrir des choses, etc. L'homme lui paye énormément de choses et elle se fait un peu traiter comme une princesse.
Elle est gâtée,
bon, ouais. elle fait la vaisselle, elle fait, enfin, en fait, elle bosse et tout avec l'homme, etc. Elle a un boulot, mais au niveau des achats, au niveau de tout ça, c'est toujours l'homme qui paye et je suis pas trop d'accord avec ça.
Mm-hmm.
Et donc du coup, par exemple, là, moi, j'en connais, je connais des gens comme ça, etc. Et en fait, ils me disent bah non et tout, nous on paye pour toi, t'es une fille, on paye pour toi. Et je lui dis mais non, j'ai mon porte-monnaie, j'ai mon argent et tout, t'es pas mon petit copain, tu me dois rien, enfin même je peux te le payer, etc. On s'en fout, on est égaux toi et moi, et donc du coup on peut payer chacun notre part, ou même je peux te le payer et la prochaine fois tu me le payes, quoi. Enfin c'est... Voilà.
Ouais, je vois, je suis totalement d'accord. Moi, après, je pense que. En vrai, le truc avec la galanterie, ça dépend vraiment de l'éducation, comme tout le monde disait. Ça dépend vraiment de l'éducation. Après, je pense que c'est assez gênant. Hein. Jonathan, toi, tu sais très bien. Hein. C'est un peu gênant, je trouve, pour une fille de se faire payer toujours tout par un garçon. Enfin, franchement, quand tu sais que la fille, elle a pas forcément les moyens de rendre au garçon ce qui lui offre, hein, c'est un peu compliqué parce que la fille se sent vraiment dévalorisée et se sent un peu comme une femme objet. Et je trouve que ça se fait pas. Hein. En fait, Jonathan, je suis le seul homme, alors du coup, je me divise un peu. C'est.
Vous aimez pas vous faire entretenir et nous non plus.
Voilà. Je veux dire, vous parlez souvent, enfin j'ai encore eu un pote au téléphone qui me disait « Ah mais non, moi tu me payes rien, moi j'ai la fierté, après tu me fais ça », il me dit « Tu fais ça, moi j'ai plus de fierté ». Je dis « Ah ouais, mais tu sais, nous aussi on a plus de fierté quand tu fais ça ».
Exactement, voilà. C'est exactement ça, la fierté ça va dans les deux sens, et on peut se payer nos trucs toute seule, et quand vous dites « Bah non et tout, que tu payes pour moi, t'es une fille, tu payes pour moi », bah non, c'est pareil, t'es un gars, tu payes pour moi, tu payes pas pour moi. Quoi.
Après il y a des filles qui adorent se faire entretenir.
Ouais, qui adorent ça.
Donc, moi je fais pas ça. À ceux qui, on voit, qui profitent de l'argent qu'on donne.
Oui,
faut voir après.
Ouais, voilà, il y a certaines
circonstances.
Si
qui profitent, faut pas abuser non plus. Hein.
Après, moi, je pense qu'on appelle ça, dans le langage courant, hein, chez les jeunes, on appelle ça des michetonneuses. Enfin, faut dire comme c'est, hein, écoutez, voilà, les auditeurs sont tout courants et c'est un petit point vocabulaire. Donc, on va aller sur une dernière question, on va faire vite parce que je vais bientôt louper mon bus sinon. Donc, j'ai vu un reportage il y a pas très très longtemps, il y a peut-être un an, hein, sur. Des cafés qui sont plutôt des cafés parisiens ou au niveau Marseille, hein, on va pas se mentir. C'est
les grandes villes.
Les grandes villes, un peu. Ouais. On dit c'est des villes un peu chaudes au niveau de la délinquance et plein d'autres choses. Hein. Mais j'ai vu des cafés qui interdisaient, enfin, pas vraiment interdire, voilà, mais qui interdisaient presque l'entrée des femmes. Donc aujourd'hui, apparemment, c'est mal vu de ne pas avoir de pénis, hein. Écoutez, je vais m'en faire greffer, hein. Ça va aller.
Ah non, merci. Hein.
Moi, je dis, c'est scandaleux parce que même si une femme ne porte pas, allez à dire, des pénis, c'est pas pour c'est pas pour autant qu'une femme n'a pas plus. Je vais vous dire, le couille qu'un homme. Des fois, les femmes ont plus de couille qu'un homme.
Ah, d'ailleurs,
exactement, Jonathan, t'as tout compris.
Ah, puis d'ailleurs, il y a une petite expression, j'ai un pote, il serait là, il dirait, ah non, mais souvent les filles, quand on leur dit, comme ça, quand on fait une réflexion comme ça, elles répondent, ah, mais t'inquiète, moi j'ai pas de coups, mais j'ai des places pour en mettre.
Exactement.
Voilà.
Totalement d'accord.
Je trouve que le fait de bloquer les femmes, etc., dans les cafés, ça fait un peu saloon dans les années 40 aux États-Unis, ouais, quoi.
Ouais, mais on revient à ça, oui.
C'est exact, c'est un peu, dans mon esprit, c'est un peu en mode moyenâgeux, c'est, pourquoi la femme, elle entre pas dans le café, de quoi tu me parles, la femme, elle est la bienvenue dans le café, enfin, c'est quoi ça? Imaginez un peu, on fasse pareil avec les hommes, on fait des cafés que pour les femmes, et s'il y a un homme qui essaye d'entrer, on lui dit oh bah non, t'es un homme, t'as un pénis, tu peux pas rentrer. Enfin, c'est complètement idiot de dire ça, au contraire, le but c'est de se mélanger, d'apprendre les uns des autres, et rester entre hommes ou rester entre femmes, ça sert carrément à rien.
Mais c'est les bons machos qui restent ensemble et qui boivent leur bière.
Comme
et qui...
moi.
Exactement.
Et la femme, elle.
Mon verre de jus d'orange là dans le bar, c'est juste voir ce mon homme.
Non, mais d'ailleurs, je trouve que c'est vachement gênant. Par exemple, je sais pas, lors de rendez-vous amoureux ou quoi, quand un garçon, voilà, premier rendez-vous ou quoi, il t'achète, je sais pas, un café ou quoi, et que toi, tu veux payer. J'ai eu le tour un coup, un garçon m'a payé un chocolat. Enfin, moi, je voulais payer, mais lui, il a été dire à la caissière que non, c'est lui qui payait pour moi. Alors, du coup, il m'a payé ça. Sauf que bon, bah finalement, on s'embrouillait, mais on s'est plus revu. Mais justement, ça force un peu. Ça force un peu la fille à être gentille et à dire ah mais t'inquiète pas, à brosser dans le sens du poil, vous voyez, et dire bah écoute, on va se revoir, comme ça je te paierai un truc, après je me casse mais tu me feras plus chier, quoi. Bah bon, moi si je le vois un peu
réglé.
Au moins c'est réglé, mais je trouve que c'est très, je sais pas, moi j'ai un portefeuille, pour moi déjà dans les repas, les dîners ou quoi, c'est moitié moitié, enfin à la limite si tu veux vraiment régler, soit chacun règle pour soi, soit chacun bah on divise la note par deux, quoi, mais il y a pas besoin de payer. Après c'est sûr, c'est romantique et tout, mais je veux dire par exemple Jonathan, si t'achètes un dîner à ta copine, enfin si tu payes un dîner à ta copine, et ben bah, toi je sais que tu n'accepteras pas forcément qu'elle te le fasse en retour.
Sinon... ouais, parce qu'en fait
voilà,
si...
par fierté
bah, non pas forcément, si c'est elle qui m'invite, bon j'accepterai qu'elle paye. Mais si c'est moi qui invite, c'est normal que c'est moi qui paye.
Ouais, je vois, mais faut aussi accepter dans le sens où si tu l'invites, elle a le droit de t'inviter une prochaine fois.
Ah bah oui, bien sûr, ça c'est normal. Ça.
Il faut pas lutter.
Ah non.
Il faut pas lutter.
Parce que souvent les gars ils nous disent mais tu paieras la prochaine fois, puis la fois d'après. Mais non, c'est moi qui paye, puis la fois d'après. Non, mais c'est encore moi qui paye, puis
après. C'est vrai,
mais t'inquiète, ça me dérange pas. Non, mais voilà, c'est trop ça. Donc bah du coup je pense qu'on a fini hein. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez loupé la diffusion d'aujourd'hui, on peut enfin il y a une rediffusion, j'arrive déjà plus à parler hein, c'est horrible. Sur le site de Micro Rebelle, donc vous tapez Google Micro Rebelle, je pense que vous allez le trouver facilement hein, c'est pas voilà. Donc on se retrouve prochainement et puis bon bah dites-nous sur Micro Rebelle si vous avez des suggestions de thèmes pour la prochaine fois, on serait très content de voir si on peut les faire et si ça intéresse tout le monde. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui.
Bye tout le monde.
Bye. Au revoir.